Cuba, en Inde, au Soudan, celui qui s'évada des prisons d'Afrique du Sud. À ce soir, 21h. France Inter.
La différence.
Bientôt 15h04, tout de suite, là-bas, si j'y suis, avec Daniel Mermet.
Salut Daniel, je ne sais pas si tu as entendu comme moi cette information diffusée sur France Inter ce matin, mais bon, c'est trop génial. Tu as vu, il y a des émeutes en Angleterre, la suite au plan de rigueur qu'ils mettent en place là-bas. Et tu sais ce qui scande les manifestants là-bas? Ils gueulent tous ensemble, ouais, ouais. Attention, pas en anglais, en français. Alors, il paraît que nos manifs sont la risée du monde. Ah non, 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 on sert de modèle. Allez, on lâche rien.
Paul de Clamcy, une information qui peut-être vous laissera songeur. Dans la revue Études, novembre 2010, un article intitulé « Ces guerres qu'on ne sait plus gagner », je cite, page 443. « Désormais, il est courant qu'une section de combat en Afghanistan s'appuie sur un drone dont le pilote est installé derrière une console en Floride. Salutations à tous.
Bonjour Daniel et toute l'équipe. Samedi 20 novembre à 14h Annecy, il y a une manif contre les Jeux Olympiques français. Et oui, la France est une grande nation qui a besoin de glorioles et de faire la fête. 10% de chômage et nous voulons dépenser 1,15 milliard pour faire la fête pendant 15 jours. Bon d'accord, Roselyne va mettre ses beaux sabots roses. Mais je vous rassure, tous les Français vont payer. Et puis normalement, ça devrait vous coûter au moins 2,5 milliards, vu que partout dans le monde, c'est plutôt 5 milliards. Et puis nous aussi, on a nos Indiens Haute-Savoie, comme en Patagonie ou en Inde. On exproprie les agriculteurs, on bâillonne le discours citoyen et la presse, on construit dans les zones avalancheuses, on invente les bus à hydrogène. Le nec plus ultra, c'est le Semnose. Une petite montagne, un coin de verdure protégé, un stade de neige que l'on va transformer en station olympique. Ah, j'oubliais, la spécialité, la spéculation immobilière à Annecy qui a de quoi faire parler Monaco ou Dubaï. Allez, tous à Annecy, avec le comité olympique, le samedi 20 novembre à 14h.
Au sujet de l'émission d'aujourd'hui sur Craon, j'ai dirigé longtemps un groupe de chant et populaire, chant de lutte. Nous chantions la chanson de Craon, cette chanson entre la marche de Boudieni et les chants de la commune, c'était une référence à l'histoire. Mais c'était dans les idées, quoi, les idées des luttes du passé pour nous aider à lutter aujourd'hui. Et puis l'émission d'aujourd'hui sur Craon m'a fait sentir autre chose, évidemment, la question des hommes, les hommes dans ces tranchées, mais l'image de ces gens qui avaient de l'eau jusqu'à la taille et dans la boue et qui montaient pour se faire tuer encore et encore. Votre émission a remis de la vie, curieusement, hein, de la vie dans ce qui était surtout des idées, quoi.
Bravo, là-bas si j'y suis, je suis émue, pour la chanson de Crâne. Je ne suis pas historienne, mais mes anciens m'ont raconté bien des choses. Tandis que mon beau-père, Lorrain, échappait de justesse à la mort grâce à un camarade dans les tranchées, presque au même moment, ma mère, âgée de seulement quelques mois, échappait à la mort lorsque des Autrichiens ont envahi le Frioul en Italie. La célèbre bataille de la Piave, de sinistre mémoire. Ma grand-mère, 20 ans à peine, veuve de guerre, fuit avec mon arrière-grand-père après avoir tout perdu. J'ai parcouru le chemin des dames dans les années 85, et je n'oublie pas. Pour conclure, je dirais une phrase d'une chanson de Brassens, qui n'est pas si cynique que ça. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Encore merci pour votre émission de ce 11 novembre 2010.
Je viens de réécouter avec beaucoup de bonheur, mais aussi d'émotion, cette superbe émission sur la chanson de Craon. Effectivement, je crois que Daniel Mermet a raison, c'est une des plus belles chansons qui soit. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes, ça prouve qu'avec un vocabulaire extrêmement élémentaire, on peut avoir tout dit, tout. Ce que je voulais vous dire, puisque vous avez cité le nombre de morts de cette guerre effroyable, et particulièrement dans le nord de la France, hein, ma région, c'est que vous devriez venir visiter les cimetières militaires, qui regorge, hélas, de tombes de soldats de la guerre 14 venus du monde entier, parce qu'en novembre, ils sont visités par les descendants de leur famille qui arrivent des quatre coins du Commonwealth, beaucoup plus que de la France. Ça, c'est un usage britannique. Il y a des registres avec des listes et des livres d'or pour déposer des mots. C'est absolument extraordinaire comme spectacle. Il y a la même chose en Belgique. Alors, n'hésitez pas, par exemple, à Blériot-Plage. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci pour ces messages. Il y a un hélicoptère qui passe au-dessus de moi. Je suis à l'est de la République démocratique du Congo et c'est un hélicoptère des Nations Unies. C'est de là que j'ai écouté vos messages et le dernier message m'a particulièrement touché concernant ces visites que font les Britanniques sur les champs de bataille de la guerre de 14. Il y a quelques années, j'avais reçu Robert Fisk, le journaliste anglais, pour son livre intitulé « La grande guerre pour la civilisation ».« La grande guerre pour la civilisation », c'était une médaille qui avait été éditée à la fin de la guerre de 14 pour justifier cette grande boucherie. Eh bien, il se trouve que le père de Robert Fisk avait cette médaille et que j'ai sorti de ma poche la même médaille que je porte toujours avec moi, que mon père m'avait donnée, la grande guerre pour la civilisation. C'est une médaille qui représente une figure, c'est censé représenter la civilisation. D'où une certaine émotion en écoutant ce message. Aujourd'hui, deuxième volet de cette émission consacrée à la chanson de Craon et à la Première Guerre mondiale. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse si j'y suis au 01 56 40 37 37. Il y a des nuages sur le lac Kivu.
Bonjour, quatre enfants scolarisés dans les écoles et collèges d'Aurillac sont expulsables à partir du 19 novembre. Originaires du Kosovo, ils sont ici depuis 2 ans. Les papas ont des promesses d'embauche. Ce sont des familles connues et appréciées. Pour les soutenir, rassemblement samedi 13 novembre à 10h, hôtel de ville d'Aurillac, ou bien signer la pétition en ligne RESF P1687 P1689. Merci.
Bonjour à tous, bonjour Daniel. Dimanche 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète. En France, nous sommes 3 millions de diabétiques. Aussi, à partir de demain vendredi jusqu'à dimanche, au CNID de la Défense, l'Association française des diabétiques tient sa grande manifestation annuelle intitulée, eh oui, les 72 heures d'équilibre. Amis concernés, venez nombreux. Vous y trouverez infos et soutien et plein de trucs pour mieux vivre votre diabète.
C'est Rachel, enseignante au collège Édouard Manet de Marseille. Notre collège de 540 élèves, classé en option réussite, ZEP et APV, est situé dans le 14e arrondissement de Marseille et n'a plus depuis la rentrée 2010 que 4 surveillants sur les 9 que nous avions encore en juin. Les 4 surveillants qui restaient au collège sont en arrêt maladie depuis la reprise après les vacances de la Toussaint. Du coup, les parents bloquent le collège depuis déjà jeudi dernier. Hier, nous avons été reçus en audience à l'inspection académique. Nous n'avons rien obtenu. Si vous voulez soutenir les parents, les enseignants, tous les établissements de Marseille concernés par ces réductions de surveillants, et il y en a beaucoup, beaucoup, se sont donné rendez-vous le mercredi 17 novembre devant l'IA à 12h30 pour manifester.
Ça y est, j'ai compris. Quand je pense que j'ai critiqué nos ministres de l'immigration, ce pauvre hortefeux qui adore tant les Auvergnats, et son remplaçant, franco-libanais Besson, qui avait gentiment invité les 276 Afghans de la jungle de Calais à changer d'air, je pensais qu'ils étaient racistes. Mais non, pas du tout. Ils faisaient de la place pour encore plus malheureux qu'eux. Ce sont les Irakiens. Une preuve, ce cher Brice est par exemple allé faire un bisou au 500e réfugié irakien accueilli en France depuis 6 mois. Il était accompagné du mari Christine Ocrène, notre ministre des sacs de riz, Bernard Kouchner, qui, comme le rappelle Gérard Sadik de la CIMAD, avait fait la promesse au Vatican, à la fin de l'année dernière, d'accueillir des Irakiens. Des Irakiens? Oui, mais pas tous, hein. Les bons Irakiens. Et comment savons-nous ce qu'est un bon Irakien? Bah, c'est simple, le chanoine de Lartran a dû leur dire. Il faut qu'ils portent une croix, et pas un croissant, c'est-à-dire 3% des habitants de ce pays. Comme la CIMADE avait gueulé, ils avaient accepté 20% de musulmans. Et c'est certainement pour équilibrer que l'on vient d'accueillir 35 familles toutes chrétiennes. Après avoir cassé un peu plus les acquis de la retraite, l'ami du Panzer Papa veut-il supprimer la loi sur la séparation des églises et de l'État de 1905 et mettre en place le régime du Concordat de 1801 qui est toujours en vigueur en Alsace-Moselle? C'est-à-dire remettre en route une France cléricale où l'on préfère le confesseur à l'enseignant? L'avenir nous le dira.
Ce qui marquait un suicide d'un soldat, puisque bon, le revolver était attribué aux officiers, un soldat pour se suicider, c'était pas si simple parce que il ne pouvait pas se tirer une balle dans la tête avec son fusil était trop grand. Alors il devait se déchausser et poser le fusil par terre et avec son pied nu appuyer sur la détente. Donc quand on trouvait un cadavre avec un pied nu et tué, on savait qu'il s'était suicidé.
Qui a gagné la guerre de 14? Je crois que personne. À part la connerie. Ouais. Je crois que l'humanité a perdu la guerre de 14. Je sais pas qui c'est qui l'a gagné. Je veux pas savoir qui c'est. Surtout pas. Je veux pas savoir. Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, au Chemin des Dames, à Craonne.
Flight number 2.
Il y a un type en 14 qui a dit « Je leur ai juste repris la longueur de mon corps. » Il est tombé et je leur ai repris la longueur de mon corps. 1m80, 1m70, 1m65, qu'est-ce que c'est? C'est de la terre, ça?
En parlant de l'Arc de Triomphe, qui sait si l'inconnu qui dort sous l'arche immense, mêlant sa gloire épique aux orgueils du passé, n'est pas cet étranger, devenu fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Ça fait le bonheur de Le Pen.
Et si sous cet arc de triomphe, les morts français de la Grande Guerre, comme on ose encore dire, si tous les morts français défilaient en rang par quatre, il faudrait 6 jours et 5 nuits avant que le dernier ne soit passé. Guerre de 14, 35 pays participèrent à cette boucherie, 10 millions de morts, combien d'années d'espérance de vie ensevelies à jamais dans la boue, combien d'orphelins, de mutilés, de veuves. 930 hectares de cimetières militaires en France ont poussé à la place de la bonne terre à blé ou des betteraves. 11 départements. 2907 communes, 485 600 hectares de forêt, 1 923 000 hectares de terres cultivables dévastées, 794 000 maisons et immeubles, 9 332 usines, 58 967 km de route, 8 333 ponts détruits, soit 71 millions de mètres cubes de déblais. 330 millions de mètres cubes seraient nécessaires pour combler les tranchées des 780 kilomètres de front. Et tout ça a coûté combien, messieurs les marchands de canons? 2 500 milliards de francs or. 3 595 000 blessés, 56 000 amputés, 65 000 mutilés. Quelques chiffres qui, évidemment, n'ont aucun sens, ne peuvent avoir aucun sens et n'en auront jamais. Pourquoi cette guerre? Historiens, chercheurs, témoins, combattants, anciens combattants, n'ont pas trouvé la réponse. Comment a pu se produire ce recul de la civilisation toute entière, cette défaite de l'humain? Que la guerre soit vue comme sacrée ou comme banale ne donne pas la réponse. Pour moi, elle est dans un geste que faisait mon père. À la fin de certains repas, il écartait son assiette sur la toile cirée et il prenait un couteau et une fourchette. Il essayait d'expliquer ce qu'avait été le chemin des dames. Et ça, c'était Craonne. Voilà, ça, c'est le verre, ça, c'est Craonne. Et l'assiette, voilà, c'est le plateau. Et il fallait monter. Et on est monté une fois, deux fois, trois fois. Et puis, il arrivait au moment où il se souvenait d'avoir dû prendre à bras-le-corps le corps d'un copain mort. Et alors il se taisait. Et c'est dans ce silence-là que nous allons aujourd'hui, que je vous emmène aujourd'hui. Non pas comme quelque chose de sacré, ni de banal. Il y avait des causes à tout ça. Il y a des causes à tout ça. La réponse, elle est évidemment à chercher du côté de la beauté. Et la beauté, pour cette guerre, elle réside dans ces quatre vers de Guillaume Apollinaire. Il faut que je reçoive, ô mon loup, la mesure exacte de ton doigt, car je veux te sculpter une bague très pure dans un métal d'effroi.
Ce sera votre tour.
Combien de vie a coûté cette chanson? Combien de corps en décomposition, puants, gonflés, parmi d'autres corps puants, gonflés en décomposition, parmi des corps de chevaux gonflés en décomposition? Combien en a-t-il fallu pour que cette chanson soit un beau jour chanté? C'était au printemps de 1916, après le chemin des dames, une formidable défaite, une des défaites les plus pitoyables de notre histoire, après l'attaque commandée par le général Nivelle le 16 avril, qui fut une défaite au bout de 10 jours de boucherie. On estime à 155 000 le nombre de victimes du côté français. Et aussi, cette commémoration a pris à réveiller, à soulever un véritable enjeu de mémoire. Oui, il n'y a pas que Vichy et qui est un enjeu de mémoire. Le chemin des dames en est un aussi. Et au pied du chemin des dames, il y a ce village qui a été reconstruit, qui s'appelle Crane. C'est difficile à prononcer. C'est Craon, parce que pour nous, c'est la chanson, la fameuse chanson de Craon qui a été créée ici lorsque les soldats se sont mutinés, se sont soulevés contre le sort absolument inhumain qui était le leur. Et alors, dans ce petit village de Craon, 69 habitants, eh ben, on entretient cette mémoire, mais d'une manière tout à fait vivante. Ce n'est pas la mémoire rigoureuse et froide, et nécessaire par ailleurs, bien sûr, de l'historien. C'est quelque chose qui concerne, qui regarde d'une manière très vivante et assez jubilante, pourquoi pas, les habitants de ce petit village. Alors, il y a le maire, Noël Janteur, il y a Yves Follen qui vient en voisin, qui est un jeune homme qui est passionné par cette histoire de la guerre de 14. Et puis, il y a Dominique et Guy Marival qui sont tous les deux profs d'histoire, très érudits, et qui travaillent là-dessus avec leurs élèves. Et puis, il y a des voisins, les gens du village, monsieur Labillois, monsieur Claude Madoré, monsieur de Courrèges, qui sont là et avec lesquels on va passer une heure. C'est de l'histoire, c'est de la mémoire. Et c'est quelque chose de vivant et qui, évidemment, nous regarde tous au fond de ce que nous sommes.
C'est une chanson qu'on trouve actuellement dans pas mal de manuels, mais c'est relativement récent, parce que c'est une chanson qui a été interdite sur les ondes nationales de l'ORTF à l'époque, comme on disait, jusqu'en 1974. Et c'est une chanson, bon, moi, Dominique aussi, donc on a utilisé très très vite dans les années 70, dès qu'on a été enseignant. Mais en fait, au début, on l'utilisait dans les cours. Hein, on faisait un petit peu à travers la chanson, si vous voulez, l'évolution de la mentalité des combattants.
En quoi est-ce que vous pouviez raconter cette guerre avec cette chanson?
Il y a les premières chansons qui sont à la gloire des poilus. Hein, donc, on fait un premier exercice pour montrer l'état d'esprit nationaliste, on va les avoir, on les aura. Après, il y a toute une série de chansons comme Au bois le prêtre, où on commence à voir la mort qui apparaît.
Je vais chanter le bois fameux, où chaque soir dans l'air brumeux rôde le boche venimeux à l'œil de traître, où nos poilus au cœur altier contre ce bandit de métier se sont battus sans lâcher pied. Le bois le prêtre. On est terré comme un renard, on est tiré comme un canard. Si l'on sort, gare au traquenard où l'on s'empêtre. Dès que l'on quitte son bourbier, on reçoit un lingot d'acier. Car on est chasseur de gibier. Au bois le prêtre. Tous les arbres y sont hachés. Et des Bavarois desséchés, là-haut, sont encore accrochés sur un vieux hêtre. Ils y sont pour longtemps, dit-on, car même le vautour glouton vous a le dégoût du teuton. Au bois le prêtre.
Vous voyez les Bavarois desséchés dans cette chanson.
Car même les vautours vous ont le dégoût du teuton. C'est terrible, je pense.
On est sale, on est dégoûtant. On a tout de l'or en outant. On rit de ressembler pourtant à cet ancêtre. Dans la boue, on vit et l'on dort. Oui, mais de se plaindre, on aurait tort. Dans moins d'une heure, on sera peut-être mort. Si du canon bravant l'écho, le soleil irisque un béco, on peut voir le coquelicot partout renaître. Car dans un geste de semeur, Dieu, pour chaque poilu qui meurt, distribue des légions d'honneur. Au bois le prêtre. Au bois le prêtre.
Parce que la chanson crâne, elle avait sa raison d'être dans l'étranger. Les gars, ils voyaient leurs copains tous les jours un à un tomber. Et maintenant, vous cueillez à froid des gens qui n'ont aucune idée de ce que ça pouvait être la guerre. On ne peut pas s'imaginer la chanson crâne maintenant, surtout sur des jeunes. Ça ne représente rien. C'est une histoire politique pour les jeunes. Alors que pour les gars qui étaient à l'étranger, ce n'était pas une histoire politique, c'était leur peau qui était en jeu. C'est tout différent.
Oui, mais c'est quand même une histoire politique. Hein. Parce que
pour eux, c'était leur vie. Ouais. Les gars qui l'ont vécu.
Ceux qui pognon se la reviendront, il fallait avoir le courage de le dire en 1917, parce qu'on était quand même dans un climat de censure terrible.
Ils n'avaient plus rien à craindre. Le lendemain, ils seraient morts, ces gens-là. À l'occasion, ils sont morts. Ils sont morts le lendemain. Donc eux, ils n'avaient plus rien à perdre. Parce que nous, maintenant, même pour notre petite retraite, on fait gaffe, hein. On ne choque pas les gars qui vous la payent. Hein.
Et puis, ce n'est pas seulement la révolte contre la guerre, parce que là, il y a des gens qui sont accusés. Hein. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront. Ça veut dire qu'il y a une réflexion sur les buts de la guerre, oui.
Non, mais c'est une révolte contre les généraux. Si on écoute bien la chanson, en fait, ce n'est pas sur le plateau, sur les tranchées. C'est les personnes qui sont à l'abri pendant que les gars se font casser la gueule, en fait.
Voilà. Alors, en prof d'histoire, racontez un peu cette offensive.
Bon, bah, cette offensive... le général Nivelle, c'est quelqu'un qui maintenant a plus tellement bonne presse, mais à l'époque, il était extrêmement populaire, et en particulier, c'est quelqu'un qui avait joué un rôle décisif, si vous voulez, à Verdun. Ça, faut pas oublier ça. Et c'est parce qu'il avait donc montré que l'artillerie jouait un rôle à Verdun, qu'on pouvait percer, si vous voulez, de façon très très localisée, qu'il a donc obtenu le commandement en chef de l'armée française, donc, puisque Joffre, il était usé depuis 14.
Joffre Pétain avait prévenu quand même le gouvernement de ne pas faire l'attaque Nivelle.
C'est ça, non, mais...
Et comme lui avait fait Verdun et avait quand même fait gros, automatiquement, ils l'ont laissé faire, ils ont laissé Nivelle prendre tout le commandement.
Il y a donc, en fait, toute une série de conflits politiques. Il ne faut pas l'oublier, entre certains ministres, certains hommes politiques, donc qui sont, pour les uns... tenant de Nivelle, pour les autres tenant de ce qui va être Pétain, finalement. Mais quand même, on donne d'une certaine façon carte blanche à Nivelle, enfin au moins un certain nombre d'hommes politiques donnent carte blanche à Nivelle, parce que Nivelle a dit, moi en 48 heures, je fais la percée et à H plus 24, je dors à l'an, quoi.
Quand ils ont attaqué à 6 heures du matin, ils auraient dû s'arrêter à 6 heures et demie. Et Nivelle a voulu absolument continuer.
Ça durait un jour, deux jours, trois jours, quatre jours avant que ça s'arrête.
Ils ont relaté que l'état-major a été au courant qu'il fallait arrêter, que c'était un échec. Et on a continué.
Et c'est la plus grosse boucherie de l'histoire d'une boucherie.
Ça peut se discuter, parce que vous savez...
Dans le concours des boucheries
Dans le concours des boucheries, il y a quand même
la
pas
somme,
mal...
La somme, c'est bien aussi.
La somme, c'est pas mal, hein, en juillet 1916. Ce qui est pas mal non plus, c'est les premières semaines de la guerre de 14. Et ce qui est pas mal non plus, et ça, on a tendance vraiment beaucoup à l'oublier, c'est mai-juin 40. Hein, parce qu'en 6 semaines, vous avez eu quand même un nombre de morts qui était très, très important. Mm-hmm. Alors, vous savez, les boucheries...
La chanson, oui. Elle n'est pas née là, elle n'est pas née sur le front. Les mutineries, ce n'est pas des gens au front. Il y a eu très peu de mutineries au front. Hein. Les gens qui refusent de sortir des tranchées sont très rares. En fait, ce qu'il y a, c'est les gens qui refusaient de remonter au front. Hein, c'était à l'arrière, au repos, à quelques dizaines de kilomètres. Voilà. C'est là qu'on chantait cette chanson-là. On ne la chantait pas dans les tranchées. Oui. C'était interdit, de toute façon. La chanson
N'oublions
officielle.
Pas que toutes les armées, puisque c'était une guerre mondiale, ont eu ce style de chanson. La fameuse chanson des Anglais qui demande « Où est le sergent ?» Il est accroché au barbelé.
C'est toujours... Et du côté allemand, aussi, il y a une chanson analogue sur la...
Disons que du côté allemand, quand on pouvait chanter, c'était bien. Mais ceux qui ont essayé de chanter des chansons pacifistes, en général, ont terminé très rapidement leur vie devant un poteau d'exécution, souvent. Et c'était surtout dans 18.
Et ce qui est quand même très, très frappant dans la chanson de Crane, c'est pas seulement une chanson pacifiste, c'est pas seulement une chanson antimilitariste, où on annonce que les soldats vont se mettre en grève, c'est aussi une chanson révolutionnaire. Il y a quand même un contenu révolutionnaire, un contenu de lutte de classe.
Il y a l'idée de grève, ben oui, il y a l'idée de grève, il y a l'idée de lutte de classe. Alors après... Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de complot? Est-ce qu'il y a une sorte de grand complot révolutionnaire? Bon, là, je crois qu'il faut... Il y en a qui l'ont dit, hein, mais...
On a essayé d'accréditer cette version-là après.
C'est vraiment aller trop loin.
Mais quand même, ces bidasses, ces soldats de l'infanterie, etc., c'était qui? C'était plutôt des prolos, c'était plutôt des paysans.
Ah, c'est plutôt des paysans.
Ouais.
La grande majorité... Bon, faut pas oublier qu'à l'époque, la France, c'est
rural.
C'est quand même une France rurale, que les combattants de 14-18, côté français surtout, mais dans les autres pays, c'est la même chose, sont d'abord des paysans. Hein, et c'est d'ailleurs sont les paysans qui fournissent le plus lourd tribut, en fait, hein, aux victimes du conflit.
C'est eux qui ont une prise de conscience. Moi, j'avais un grand-père paysan qui raconte qu'en 1914, il est parti ravi, content, il allait faire la guerre, il allait gagner, il allait voir du pays.
On criait à Berlin, à Paris.
Oui,
hein,
oui.
Il partait pour 6 mois.
Oui, on y va, on revient.
Et sa prise de conscience, elle s'est faite sur le front, parce que là, il a rencontré des ouvriers, il a rencontré des gens qui avaient l'habitude des luttes sociales. Et mon grand-père s'est jamais réadapté à la vie à la campagne. Il est devenu ouvrier, il est parti en ville après la guerre, parce que ça lui avait aussi quelque part éveillé l'attention sur ce qui se passait dans le monde. Alors que du fond de sa campagne, c'est pas qu'il était patriote, je crois qu'il... Bien sûr, il y avait l'influence des instituteurs, mais il était surtout inconscient du fait que la guerre, elle a des responsables, qu'il y a eu des décisions politiques de prise.
Oui, enfin, n'importe comment, les luttes sociales ne sont pas nées quand même avec la chanson de
absolument
de
pas non non
mais il y simplement avait des luttes sociales en France
absolument
qui étaient...
mais les luttes sociales, on peut dire, resurgissent en 1917 dans la chanson de Crane.
C'est ça.
Alors que, disons, pendant les premières années de la guerre, bon, c'était ce qu'on appelle l'union sacrée, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de partis différents, il n'y avait plus que des Français.
Il y a une chanson qui dit « L'Internationale, on la chantera au retour ».
Oui, ça c'est c'est la lettre, vous connaissez, c'est une chanson de Montéus qui s'appelle « La lettre d'un socialo ».
Ce qu'il faut, pas de critique, encore moins de politique, qu'on dit à Monsieur Gervais. Qu'il garde pour lui son histoire, nous gardons pour nous la gloire, à nous battre en bon français. Qu'il sache que dans la fournaise, nous chantons la Marseillaise, car dans ces terribles jours, on garde l'international pour la victoire finale, on la chantera au retour.
Et je pense que pendant la guerre 14-18, c'est vrai que tout ce phénomène-là révolutionnaire, de conscience, de partage, de connaissance de l'autre groupe social, ça a existé. Mais les fruits ne sont arrivés qu'après la guerre. C'est-à-dire que, à mon avis, les gars qui étaient sur le front ou qui ont fait la guerre pendant 4 ans, la première chose qu'ils pensaient, c'est bouffer et sauver leur peau.
Alors, quel lien on fait ensuite? Là, on suit le parcours historique. entre cette attaque et les mutineries?
Ah ben, c'est l'évidence même. Bon, c'est l'échec alors qu'on avait, on pensait que c'était la dernière, quoi, la dernière offensive.
Ouais, c'est toujours la guerre des lèvres, oui.
Oui, mais là, c'était vraiment bon, encore un effort et puis on les aura. Bon, et puis là, en fait, on les a pas. Puis on piétine et puis on se fait plier par les mitrailleuses. Bon,
les soldats français n'étaient pas tués par les Allemands, mais aussi par notre artillerie lourde qui artillait sur la première ligne. Parce qu'ils n'arrivaient pas sur la ligne allemande.
On le voit dans le fameux film Les Sentiers de la Gloire de Kubrick. Hein. Alors bon, c'est sûr que là, il y a vraiment effectivement un ras-le-bol. Enfin, les poilus n'imaginent pas de remonter une nouvelle fois à l'attaque. Bon, ça c'est évident. Et c'est donc lorsqu'on les retire, on retire les unités donc du front même, et on les envoie au repos donc à quelques dizaines de kilomètres d'ici, donc dans la Marne, dans l'Aisne, enfin. C'est là qu'il y a effectivement, lorsqu'on leur dit bon ben vous allez repartir, non ils disent non c'est plus possible, on n'y va plus. Enfin c'est là qu'il y a quelques actes d'indiscipline, de mutinerie, des injures ou des coups.
Donc, beaucoup d'injures, ce qui était le type de mutinerie le plus fréquent en fait, c'est le soldat qui salue pas et qui traite le sous-officier
de grosse vache. Ouais.
Oui.
Mais c'est quand même un phénomène qui reste minoritaire. Enfin, on estime qu'il y a à peu près, je sais pas, 30 000, 40 000 cas de mutinerie, et encore peut-être grand maximum. C'est pas alors qu'on a quand même 8 millions de mobilisés. Hein.
Oui, mais
et moi ce qui m'interpelle, c'est pourquoi finalement ça a pas débouché sur quelque chose de très fort, parce que 1917 c'est l'année terrible. Il se passe des choses en Russie. Et en France, finalement, Pétain, il arrive à calmer tout en si peu de temps.
Il y a un groupe de soldats qui avait envisagé donc de repartir vers Paris et qui a été arrêté donc dans la forêt de Villers-Cotterêts.
Le train a été arrêté.
C'est ça.
Ah, qu'est-ce qu'ils voulaient, ces gars-là? Qui c'était, ces gars-là?
Ben ça, j'en sais rien. J'en sais pas plus que ça. Je sais qu'ils ont été après jugés donc par un tribunal militaire qui siégeait à Soissons et condamnés, pas d'ailleurs à mort. Mais là, on avait. Bon, je pense qu'il y a quand même là une. On va au-delà, si vous voulez, de l'acte d'insoumission. Il y a quand même une sorte de projet collectif révolutionnaire, si on veut, des gens qui vont à Paris, quoi. Enfin,
j'essayais de faire que l'arrière suive, parce que dans tout ça, dans la chanson de Crâne, c'est que sur le front finalement qu'on a cette mutinerie. L'arrière continue à être revanchard, à dire, à écouter ce que dit la propagande et à dire.
Le mouvement quand dans la chanson dit sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. C'était ça, la Paris était.
Bah, ça, on dit, bah oui, bon, on le dit toujours, les soldats qui arrivent, bon, parce que, vous savez, il y a tout ce trafic énorme ferroviaire. Hein, les soldats qui arrivent, gare du Nord, gare de l'Est, qui ensuite traversent Paris, qui vont prendre la gare du Lyon, gare Montparnasse, bon, pour aller donc retourner dans leur province en permission. Et en fait, ils voient effectivement les cafés qui sont pleins, ils voient les gens qui sont avec des femmes, bon, il y a tout ce problème de la frustration
les
aussi
théâtres
sexuelle.
Les
théâtres qui sont bondés.
C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres puretins. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau.
Et l'état-major avait offert une somme considérable à qui dénoncerait les auteurs ou l'auteur des paroles de cette chanson, et promettait aussi à ceux qui dénonceraient la libération. Le mot était celui-là, bel et bien libération. Bien personne n'a jamais cafeté, personne n'a jamais dénoncé l'auteur de cette chanson, si bien qu'il y a un homme Si toutefois il y en a qu'un, il y a peut-être plusieurs auteurs qui est à jamais resté anonyme. On devrait faire un monument à cet homme-là qui pourrait s'appeler le monument du poète inconnu.
Oui, bon, la répression, les chiffres, alors pendant très très longtemps ont été énormes, hein, oui. Parce que étant donné qu'on n'avait pas d'éléments, si vous voulez, bon, il y avait tout ce qu'on disait, toutes les rumeurs. Bon, on a parlé de décimation, bon, c'est-à-dire qu'on prenait sur un régiment un homme sur 10, donc et on le passait par les armes. On a parlé d'exécution sommaire.
Décimation, excusez-moi. Oui. Décimation, c'est un terme qui était utilisé quand on a dit que certaines unités avaient été envoyées plusieurs fois exprès contre des barbelés et des mitrailleuses pour que les gens qui faisaient partie de ces unités-là disparaissent, et notamment des régiments du Midi de la France qui avaient participé, ou soi-disant, qui avaient participé à des grèves avant la guerre.
17e. Gloire au 17e.
Gloire au 17e, Montéus. Ah, qui a payé ouais. Pendant.
Salut, salut à vous, bravo soldat. Salut, brave Piu-Piu, à quoi vous admirez. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République.
Ainsi ils ont payé plus tard ces soldats du 17e qui avaient refusé de tirer sur des paysans qui protestaient par solidarité, disons de classe, allons-y. Et bien, donc on apprend qu'ils ont payé ça plus tard au cours de cet assaut du chemin des dames. On est donc à Crâne, il faut dire absolument Crâne, avec le maire de Crâne, Noël Janteur, avec Dominique et Guy Marival qui sont historiens, avec Yves Follaine, en train de parler, d'évoquer de façon vivante, de façon, comment dire, vécue, voilà, c'est ça, cette guerre qui reste évidemment en grande partie une énigme. Comment a-t-on pu à ce point voir la civilisation reculer, cette défaite pour l'humain? Mais il se trouve des gens comme cela, et comme vous et comme moi j'en suis sûr, qui refusons de croire que tout ça est dépourvu de cause.
Ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps aussi les archives ont été interdites. Bon, là c'est toujours le problème, c'est pas accès aux archives. Il a fallu attendre donc la fin de la guerre d'Algérie, enfin disons la fin, les années 60 en fait, hein, pour que les historiens puissent avoir, et encore certains historiens donc, puissent avoir accès aux dossiers, notamment de la justice militaire. Et là on s'est aperçu donc il y a eu à peu près, donc je cite de mémoire, il me semble c'est 1300 mutins, ou supposait-elle, donc qui sont passés devant des cours de justice, qu'il y a eu donc à peu près 450 condamnations à mort, et en fait il y a eu seulement donc 49 fusillés effectivement. Alors ça, c'est bon, ce sont les chiffres officiels. Est-ce qu'ils sont justes?
Ouais. Encore une fois, je crois qu'il faut oublier les chiffres. Il faut savoir qu'il y a des gens malheureusement qui ont été pris au hasard et fusillés alors qu'ils n'avaient rien fait. Ouais. Et oui. C'était des types qui parfois étaient décorés.
Oui, parce qu'il y en a un qui s'était engagé en voyant toute sa famille se faire décimer par les Allemands, et donc s'est engagé dans le combat pour venger sa famille et est passé au peloton d'exécution. Il était sergent.
Pourquoi fusiller des hommes? Pourquoi ne pas simplement les avoir mis en prison? Pourquoi fusiller des hommes?
C'était l'exemple, vous voulez faire.
C'est aussi le règlement militaire.
L'armée australienne n'a jamais fusillé un soldat. Et pourtant, il y en a qui ont déserté, je peux vous le dire.
C'est le règlement militaire. Hein.
Mais c'était beaucoup plus simple. C'était quand même plus simple d'éliminer ceux dont on avait remarqué qu'ils avaient été à la tête d'une mutinerie. Il suffisait de les désigner comme volontaires pour aller faire une mission de reconnaissance, aller couper les fils de fer barbelés. Celui qui était désigné, il savait très bien ce que ça voulait dire. Hein. Ça voulait dire qu'il allait y passer. Donc je crois que beaucoup de mutins qui avaient été repérés par les officiers comme étant à la tête ont été éliminés d'une manière très très discrète de cette façon.
Et alors là, on n'aura jamais de chiffres. Hein.
De toute façon, tout homme raisonnable pense qu'un seul fusillé, c'est trop.
Ça, c'est évident. Ça.
Mais alors, puis il y a autre chose, c'est qu'on oublie actuellement qu'il y a encore des hommes sous terre. Donc on en retrouve tous les 2-3 ans.
Je me souviens, je me promenais donc c'était au printemps 66, et au programme de sciences naturelles en terminale, c'était l'homme. Bon. Et puis, bon, j'avais sciences nat, je me souviens, le lundi matin. Et là, c'était un dimanche, donc, et en se promenant avec mon grand-père, je regarde un petit peu sur le bord du chemin et je vois ce qui ressemble à des dents. Alors, je me baisse, je ramasse, je dis, tiens, demain, j'ai science nat, je vais montrer ça au prof, on va regarder ça avec les copains. Et en fait, je creuse un peu, puis après, il y a un morceau d'os, si vous voulez, et on a découvert un soldat. Enfin, un soldat, c'est-à-dire un squelette. On a vu le crâne très vite apparaître, et puis d'autres ossements. Et on a découvert à ce moment-là qu'il avait, sur ses effets, enfin, il était alors ramassé. Il tenait, paraît-il, en 50 cm. Si vous voulez, il avait dû être replié, si vous voulez, par tous ses obus et dans ce trou d'obus où il avait fini par se trouver enseveli. Il avait avec lui une tabatière en argent. On n'a pas retrouvé son identité. Il est actuellement donc dans l'ossuaire au cimetière de Cranel. Et ça, c'était en 66, donc ça fait 30 ans. Mais je pense que depuis 1966, on a retrouvé d'autres soldats.
Ben dis donc, la nature étant bien faite, les soldats qu'on retrouve actuellement ne sont plus dans le même état, pour parler simplement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus les manipuler pratiquement. C'est-à-dire que c'est de la poussière. Ça tombe, dès qu'on touche à un os, il tombe en poussière.
Et vous hochez la tête, vous en avez vu, vous ?
Oui, j'en ai vu, mais disons que moi, je suis plus originaire de la Somme, et il faut dire que depuis la fin de la guerre de 14, la moyenne est de retrouver 25 corps, depuis la fin de la guerre de 14, 25 corps par année. Il y a une tranchée qui fait peut-être 200 mètres, elle est remplie de corps britanniques, 50 mètres en face, la même tranchée, une autre tranchée, remplie de corps allemands. Le fermier ne veut pas en entendre parler, parce que pour lui, productivité d'abord.
Et puis après, le TGV déraille parce qu'on le fait passer sur des tranchées et de temps en temps, il y a un petit éboulement.
Donc, les exécutions, vous dites, ne donnent pas... Enfin, les chiffres qu'on a aujourd'hui ne donnent pas une idée de ce qui s'est passé dans les consciences et ce que ça portera par la suite dans la...
Certainement pas. Et par exemple, imaginez l'officier qui a reçu justement ces injures, qui a été sans doute blessé. Le jour, un jour de mai 1917, qui a pris ça en pleine figure, si vous voulez, qui en a gardé sans doute une blessure d'amour-propre très profonde. Il suffit qu'il se retrouve peut-être avec ce même soldat, évidemment, ou un autre qui était dans le groupe, ou un copain, et c'est sûr que cet officier, il ne va pas hésiter à désigner quelqu'un qu'il suspecte de mauvaises idées, si vous voulez, pour l'envoyer effectivement à la mort lors d'une mission dangereuse. Bon, et ça, comment voulez-vous le comptabiliser? Bon, est-ce que ça a été un cas? Sans doute. Bon, il y en a. Est-ce que ça a été des dizaines, des centaines? On n'en sait rien.
N'oublions pas également, donc on parle des pertes, n'oublions pas cette blessure morale qui existe et qui existe toujours. Et n'oublions pas aussi ce qu'ont dû penser les soldats qui ont fusillé des mutins.
C'est ça, c'est-à-dire que ces mutins ont été fusillés par leur copain.
Leur père, oui. Enfin, d'autres soldats. D'autres soldats, oui, absolument. Oui.
Et ça, ça a été mis en scène d'une manière très violente, très forte, pour faire l'exemple, pour frapper les imaginations.
Oui. Là, je pense que bon, on a tous en mémoire quand on évoque cela. Enfin, vous aussi, sans doute, hein, le film de Kubrick, Les
Sangs de la Gloire. Non, monsieur. Moi, c'est mon père qui me l'a raconté.
Figurez-vous. Ah bon ?
Il a tiré sur ses copains.
Ah bon ?
Oui.
Ah bon ?
Oui.
Et c'était après les mutineries ?
Il était là. Il a tiré. Il était dans les mutineries. Il a tiré sur ses propres copains.
Et votre père s'était mutiné, lui ?
Oui.
Ouais. Comment supporter cette idée? Comment vivre avec cette idée après? On parle jamais de ce mal psychologique de l'après-guerre. Combien d'anciens combattants se sont suicidés?
Enfin, moi, je reviendrai à mon analyse toute simple de paysan. Quoi. On réfléchit, on est des intellos. Mais celui qui est revenu avec ce qu'on appelait la gueule cassée, parce qu'on parle toujours de blessures morales. Mais il faut voir tous ceux qui sont rentrés chez eux impropres à la vie, pour toute leur vie. Et puis le handicap qu'il y avait pour les familles qui accueillaient ces gens-là. Les femmes qui ont retrouvé leur mari complètement détruit, quoi. Donc c'est pas seulement une blessure morale, c'est quelque chose au quotidien, qu'ils ont été obligés de vivre au quotidien et supporter au quotidien.
Pour ne pas donner un exemple français, pour abonder dans le sens de monsieur, je connais le cas d'un soldat australien qui, dans les années 30, vivait dans une baignoire, dans un liquide spécial, parce qu'il n'avait plus de peau.
Tu n'en reviendras pas, toi, qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Que nos buts a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre, et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. On part, Dieu sait pour où, ça tient du mauvais rêve, on glissera le long de la ligne de feu, quelque part ça commence à n'être plus du jeu. Les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs, les soldats assoupis que ta danse secoue, laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface, déjà vous n'êtes plus que pour avoir.
Qu'on est en train de parler de choses qui sont passées hier.
C'est à côté.
Pour vous, c'est pas hier, mais c'est à côté. Quoi.
C'est pas hier, mais c'est ici.
Vous êtes dedans. Quoi. Oui, il n'y a pas de passé, il n'y a qu'un présent, puisque vous êtes plus vivant.
L'histoire est toujours en marche. Les gens qui trouvent des obus dans les champs, c'est la guerre de 14. Il y en a qui meurent tous les jours, peut-être encore. On parle des mines, peut-être encore.
Il y a encore des paysans qui meurent à cause des obus de 14. Faut pas oublier, il y en a toujours dans les champs, et il y en a dans les bois, nos gosses peuvent aller se promener dans les bois. Il y a quelques années avec mon grand-père, c'était les grenades dans les chemins, c'est tout ça.
Je connais un agriculteur de Bélicourt à côté de Saint-Quentin qui a survécu à la guerre d'Algérie et qui a perdu un bras à cause d'une grenade américaine de la guerre de 14.
C'était un reportage avec Raïssa Blankoff, première diffusion le 10 novembre 1997. Merci aux habitants de Crane et au maire Noël Janteur, ainsi qu'à Yves Follaine, Dominique Guimarival, Monsieur Labillé, Claude Madoré et à Marc Perronne. À lire, c'était La guerre des tranchées, une bande dessinée de Jacques Tardy aux éditions Casterman. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émissions, là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Pascal Baldassari. Réalisation Coy Nguyen et Franck Aderer. Assistante Agnès Lebotte, chef du répondeur Marina Touillez. Le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
C'est pas les handicapés que je photographie, c'est pas les mondes marginaux que je photographie. C'est la vie que ces gens ont trouvée qui les permettent de continuer à vivre.
Des femmes nues au hammam, ce sont des prisonnières de l'Est.
Toutes les choses qui sont perturbantes.
Un homme amaigri qui lutte contre le sida, c'est à Paris, dans les années 80.
Pour nous, les bien portants.
Jane Evelyn Atwood, 63 ans, est photographe. Elle vit de longues années avec un sujet et rapporte toujours des images fortes et dignes.
Vincent Josse.
C'est mon atelier.
L'atelier, demain, dès 19h20.
Nous autres.
Olivier est ce qu'on appelle un chimico-sensible.
En tant qu'électro-hypersensible, on aimerait avoir des zones blanches pour pouvoir survivre, en fait.
Zoé Varier.
Cette pathologie est reconnue par l'OMS.
Le problème, c'est que des zones blanches, il n'y en a presque plus en France. Et puis, la politique est faite de façon qu'il n'y en ait plus, puisqu'il faut que tout le monde ait accès à la téléphonie mobile.
Cela pourrait être le scandale sanitaire du 21e siècle.
Nous autres,
en restant dans des zones irradiées,
ce soir,
on va mourir.
À partir de 20h.
France Inter. La différence.
À suivre, Carrefour de l'Odéon. Bon après-midi sur France Inter, il est 16h. Les informations avec Dominique Delaroy.
Il s'agit bien de Christopher, le corps de l'enfant retrouvé ce matin dans l'Eure, la rivière, près de Chartres. Et bien celui du petit Christopher, disparu depuis le 29 octobre. Il a été retrouvé dans un endroit qui avait déjà été fouillé par les pompiers, immergé sous des branchages près d'un moulin. Les intempéries de ces dernières 36 heures ont modifié quelque peu l'environnement, notamment au niveau des branchages dans la rivière. C'est ce qui a permis de dégager le corps de l'enfant qui est remonté à la surface de l'eau. A précisé le parquet, le petit garçon s'était enfui à vélo du centre départemental de l'enfance de Champfol, à quelques kilomètres de là. Une autopsie a été ordonné pour déterminer l'heure et les causes de la mort de l'enfant. Qantas, la compagnie australienne, connaît de nouveaux problèmes de réacteurs avec un autre de ses appareils. Il s'agit cette fois d'un Boeing 767 avec 234 passagers à bord qui a dû rebrousser chemin et atterrir peu après son décollage sur une ligne intérieure. Le Boeing était doté de moteurs General Electric. Cet incident survient 24 heures après la décision de Qantas de maintenir au sol la totalité de sa flotte d'Airbus A380 à la suite de l'explosion en vol d'un moteur Rolls-Royce. Rolls-Royce qui assure avoir identifié la cause de l'avarie, un composant spécifique dans la zone de la turbine du moteur. La pièce défectueuse est en train d'être changée sur tous les moteurs de ce type. La SNCF exprime pour la première fois ses regrets pour son rôle dans la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. L'entreprise publique qui a transporté quelque 75 000 Juifs déportés pendant la guerre affirmait jusque-là pour sa défense avoir agi sous la contrainte. Seulement voilà, pour prétendre aux grands contrats américains, il lui fallait faire acte de contrition. Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, a rencontré début novembre des élus de Floride et des associations juives pour le projet de ligne à grande vitesse Tampa-Orlando. Il leur a fait part du souhait de la SNCF d'exprimer sa profonde peine et son regret pour les conséquences de ces actes réalisés sous la contrainte de la réquisition. Fraude aux inscriptions à l'université Paris 13 Villetaneuse. L'établissement a porté plainte pour corruption, trafic d'influence, escroquerie dans une affaire de dysfonctionnements administratifs lors de l'inscription d'étudiants chinois en 2009. Il y avait vraisemblablement un réseau de personnes chinoises qui aidaient des étudiants chinois à s'inscrire sans avoir le niveau. Pour cela, il leur donnait beaucoup d'argent, entre 2 000 à 3 000 euros, selon Jean-Louis Salzman, le président de Paris 13. Au Grand Palais, déception des épéistes françaises, battues en quart de finale des championnats du monde d'escrime par les Roumaines. Les Roumaines qui affronteront en finale l'Allemagne. Prochaine chance de médaille française demain avec l'équipe masculine d'épée. Et toujours à Paris, mais cette fois en tennis, le Suédois Robin Söderling s'est qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Paris-Bercy en battant l'Américain Andy Roddick en 2-7, 7-5, 6-4.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Cette semaine, dans votre émission culturelle internationale, nous parlerons de la comédienne suisse Zouk à travers le roman de Marilyn Debiol. La bande dessinée sera à l'honneur avec le Picobog de Dorma Leroc et avec le Bloodsy de Lewis Trondheim. Et puis il sera question de politique internationale avec l'écrivain Mamadou Mahmoud Dang. Les élections dans le monde sont-elles jouées d'avance? C'est l'une des questions que nous poserons.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad, tous les samedis à 17h. France Inter. France Inter.
La différence.
Bientôt 16h04, l'heure de retrouver Frédéric Lodéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Demain, vous l'avez peut-être lu ou entendu chez Isabelle Giordano ce matin dans Service Public, demain c'est la journée de la gentillesse. Et oui, et pourquoi pas? Il paraît que déjà la semaine était consacrée à cette belle qualité, mais le point culminant c'est demain et j'ai envie de vous proposer quelques compositeurs réputés gentils aujourd'hui comme Johann Christian Bach, Jean Chrétien Bach qui a été décrit comme un homme doué dans sa profession d'une bonté généreuse, fidèle à ses amis, de caractère respectable, et Mozart lui-même l'a beaucoup apprécié, puisque le petit Mozart, arrivé à 8 ans à Londres, a été reçu très chaleureusement par celui qu'on appelait le Bac de Londres. Et il a écrit à son père « Tu peux facilement imaginer sa joie et ma joie à nous retrouver. » Ça, c'était des années après, bien sûr. « Je l'aime, comme tu le sais, de tout mon cœur. J'ai de l'admiration pour lui. » Ben voilà, ça fait un beau souvenir pour la postérité. Presto d'une quatrième ouverture en ré majeur de Johann Christian Bach. Thank you. presto de la quatrième ouverture en ré majeur, opus 18 de Jean Chrétien Bach, on va dire en français, avec l'English Symphony Orchestra, dirigé par William Boughton. Alors, je vais même pas citer le père de Jean Chrétien, puisque on sait que Jean-Sébastien n'était pas toujours très aimable, et qu'il avait même dit d'ailleurs que son fils, Jean Chrétien, ferait une très belle carrière parce qu'il n'était pas très futé, ce n'était pas extrêmement sympathique non plus. Voilà, et on sait aussi que Jean-Sébastien a tiré l'épée une fois qu'il a été blâmé pour ceci, mais enfin bon, il avait un caractère très entier et il fallait évidemment cette force pour mener à bien son œuvre immense. Mais comme nous sommes dans cette semaine de la gentillesse et qu'on arrive demain au point le plus important, je l'ai dit, voici Haydn, Joseph Haydn, appelé par ceux qu'il connaissait, par Mozart, surtout papa. Il a été celui qui a reconnu le génie de Mozart. Il l'a dit à son père, il a dit « je n'ai jamais entendu un talent pareil ». Et ni de réputation d'ailleurs, ni en vrai. Et ça, c'est vraiment d'une gentillesse extraordinaire, d'un dévouement et d'une honnêteté intellectuelle surtout. Voici le final presto de la 102e symphonie de Joseph Haydn.